Pierre, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mboujima au Kassai Oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs, votre magazine d'échanges citoyens. Après trois cycles électoraux sans une participation des Congolais vivant à l'étranger, pour la première fois, la diaspora congolaise va pouvoir voter pour les scrutins de 2023, notamment pour l'élection présidentielle. Ils sont plus d'une dizaine de milliers d'électeurs ici de cinq pays pilotes, à savoir la France, la Belgique, les États-Unis, le Canada et l'Afrique du Sud qui s'apprêtent à voter pour la présidentielle de 2023. En cette période des campagnes électorales dans ces pays pilotes, des militants battent campagne pour défendre le programme de leur candidat président. En Belgique, tout comme en France, deux pays qui comptent le plus grand nombre d'électeurs de la diaspora, les militants font une campagne de proximité, notamment dans les églises, les cafés, les restaurants, bref, dans les lieux fréquentés par les Congolais. Pour certains Congolais de la diaspora, ces élections de 2023 constituent une occasion propice pour eux de jouir pleinement de leur droit de vote en qualité de citoyens et de contribuer ainsi au choix du futur président de la RDC pour les cinq prochaines années. Commentez-vous cette toute première participation de la diaspora congolaise aux élections de 2023. Quels sont les enjeux dans les processus électoraux et quels en sont les enjeux dans les processus électoraux en RDC? Vos réactions sont les bienvenues sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Vous pouvez aussi intervenir en direct en composant les 081-890-6330 ou les 081-890-4969. Dieudonné Nyanga est à la mise en nom de ce magazine. Bléchina a su la réalisation et la coordination au micro. C'est Marcel Gomobala. À toutes et à tous, excellente condition d'écoute de ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs.
Parole aux auditeurs.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Encore une fois, bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs, votre magazine d'échanges citoyens. Merci à vous qui avez déjà réagi sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Merci également à ceux qui se sont inscrits pour réagir en direct par rapport à ces sujets sur, en tout cas, cette toute première participation de la diaspora congolaise pour les scrutins de 2023, c'est concernant l'élection présidentielle. Et pour commenter ces sujets, nous avons le plaisir d'accueillir encore une fois dans ses studios, Maître Dieudonné Tshibobwa. Il est avocat au barreau de Bruxelles en Belgique et du Canada en RDC, mais aussi le président de la Fédération de la diaspora congolaise de Belgique. Maître Dieudonné Tshibobwa, bonjour.
Bonjour Marcel, bonjour aux auditeurs.
Voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation. Voilà, en tout cas pour ceux de la diaspora, c'est la toute première fois qu'ils ont vraiment l'occasion d'aller voter après trois cycles électoraux. Il y avait 2006, 2011, 2018 où les Congolais vivant à l'étranger n'ont pas pu voter. Et cette fois-ci, il y a cinq pays pilotes où les Congolais qui vivent dans ces pays, en tout cas, vont pouvoir voter pour les élections de décembre 2023, notamment pour ces élections présidentielles. Il s'agit de la France, de la Belgique, des États-Unis, du Canada et de l'Afrique du Sud. D'abord, cette première question d'entrée de jeu à vous. Vous êtes avocat, vous êtes, on peut le dire également, congolais de la diaspora, parce que vous êtes, vous vivez en Belgique. Dites-nous un peu quelles sont vos premières impressions par rapport à cette toute première participation de la diaspora. Et d'après vous, quels sont les enjeux d'une telle participation de la diaspora pour ces scrutins de 2023?
Merci beaucoup, Marcel. Mais j'aimerais, avant de commencer, juste préciser une chose. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle de la diaspora, le terme a une certaine connotation péjorative. Je préfère dire congolais de l'étranger.
Congolais de l'étranger, oui. Diaspora, pourquoi? Parce que il a cette affaire de combattant ou bien quoi? Pourquoi, non, pourquoi c'est péjoratif?
C'est mal perçu parce que les gens aujourd'hui ont une idée qui n'est pas vraie de ce qui représente la diaspora. La diaspora, c'est simplement un terme générique pour dire ceux qui vivent à l'étranger.
À l'étranger, voilà. On va pas dire comment.
Contrairement aux déplacés qui sont ceux qui sont déplacés dans l'intérieur du pays et qui d'une province à une autre. Je veux juste préciser ça, c'est beaucoup mieux, ça va peut-être nous aider à comprendre que les Congolais de l'étranger sont des Congolais, comme ici, qui ont des droits, tant pour des droits de leur pays d'origine que aussi des droits de leur pays où ils vivent pour
adoptif moment. Oui,
donc c'est un peu ça, faut préciser, oui. Ça voilà. En ce qui concerne maintenant la question, nous allons d'abord à saluer donc le courage qu'a pris la commission électorale d'avoir une phase pilote avec cinq pays où regorge pas mal de Congolais de l'étranger, tout en disant que c'est la loi qui le prévoit. Normalement, dans tous les sites électoraux. Il est prévu que les Congolais de l'étranger y participent également. Mais maintenant, les Congolais de l'étranger, il faut nuancer ceux qui ont gardé leur nationalité. Parce que beaucoup de Congolais qui sont à l'étranger ont, pour des raisons X, Y raisons, adopté les nationalités de leur pays d'adoption. Mais ici, il y a des Congolais qui n'ont pas, qui ont gardé leur nationalité congolaise et qui remplissent les conditions d'être électeurs.
Et justement, il fallait répondre à ces critères. Et
voilà, oui, donc pour, beaucoup pouvoir sont voter, des électeurs. Et donc la CENI a essayé, tant mieux que mal, d'avoir cette phase pilote qui devrait être améliorée bien avant, bien évidemment. Il y a eu des contraintes techniques. Bon, pour la Belgique, à ce que je sache, il y a eu moins de 5 000 enrôlés, sauf erreur. Et si nous partons sur une population de plus ou moins 100 000 Congolais qui se trouvent en Belgique, dont la moitié a acquis une autre nationalité, donc on aurait dû peut-être avoir un enrôlement qui se situerait entre 30 000, 40 000 Congolais. Mais ce qui n'a pas été le cas, je parle de la Belgique parce que je maîtrise un peu mieux le pays, mais ce sera le même raisonnement pour d'autres pays également, comme la France, le Canada, les États-Unis. La première contrainte, c'est que l'enrôlement s'est déroulé uniquement dans les installations de l'ambassade. L'ambassade, du moins pour la Belgique, se trouve à Bruxelles. Et la Belgique a plusieurs provinces. C'est comme si vous exigez aux gens qui doivent quitter Matadi, la province orientale, tout ça, de venir à Kinshasa pour faire un relais. Vous comprenez? Donc les gens n'ont certainement pas le temps matériel. Et les gens travaillent, c'est un coût. Donc, je pense que le projet nous fait réfléchir comment délocaliser certains bureaux d'enrôlement pour que les Congolais qui remplissent ces conditions soient enrôlés près de leur lieu de domicile, de résidence ou de leur travail. Donc ça, c'était une faiblesse. Maintenant, la deuxième faiblesse, c'était aussi au niveau de la mobilisation communicationnelle. La communication n'a pas été optimale. C'est-à-dire que les Congolais, il faut savoir où les avoir. Il y a des lieux de rassemblement des Congolais qui sont connus. Le premier lieu, c'est les églises ou d'autres lieux de culte. Vous avez des cafés ou d'autres endroits qui sont fréquentés. Et ce sont ces genres d'endroits qu'il fallait mobiliser pour que les Congolais qui remplissent ces conditions se fassent enrôler. Bon, ça sont des remarques que je donne juste rapidement à titre d'introduction. Mais cela étant, on a quand même senti au niveau de ceux qui se sont enrôlés un besoin de pouvoir participer au débat politique dans leur pays. C'est pour cela que il y a eu presque 5000 personnes qui ont quand même bravé le temps et qui ont pris le courage de faire des distances et de perdre peut-être une journée de travail pour se faire enrôler. Voilà. C'est un peu ça en gros. Mais ce que nous déplorons aussi, ça je veux rapidement le dire, c'est que les Congolais, beaucoup des Congolais qui ont acquis notre nationalité attendaient que la loi change. Pour que la loi que nous défendons sur l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine permettent à ceux qui ont, tous ces Congolais d'origine de récupérer leur nationalité congolaise et de faire valoir leurs droits. Parce que, de fait, ces Congolais participent chacun à son niveau à l'avancement du débat démocratique au Congo. Donc beaucoup ont quand même regretté. Et je peux vous dire qu'on est dans les pratiquement 40 000, 50 000 aussi Congolais, je parle de la Belgique, qui pouvaient, si cette loi était passée, aujourd'hui être électeurs. Et ça, c'est quelque chose à ne pas négliger. Donc en gros, mes raisonnements que je tiens est similaire pour les autres pays. Vous savez, la Belgique, comme c'est un petit pays, bon, un petit pays en termes de superficie, bon, vous avez des plus grands pays comme en Amérique, vous avez le Canada, ou les États-Unis, où ce sont des kilomètres. Vous savez, vous pouvez prendre un avion aux États-Unis pour circuler, faites 8 heures entre deux pays, deux États. Et le même raisonnement, vous voyez quelqu'un qui prend un avion pour aller juste faire un relais, prend 8 heures, qui dépense son argent, doit passer la nuit à l'hôtel pour un enrôlement. Donc le même raisonnement qui doit être prise en compte pour le futur, délocaliser en fonction des États et trouver des voies et moyens. Pourquoi pas digitaliser l'enrôlement? Ça, c'est
impossible. Ça pourra permettre d'avoir beaucoup
plus de gens, plus d'enrôlés et avoir un travail qui sera quand même, qui prendra vraiment en compte les Congolais de l'étranger dans ce débat-là, notamment celui des élections.
Voilà, alors s'il faut parler, parce qu'on est vraiment en période de campagne électorale, j'imagine que c'est, ça se passe également dans ces pays, en tout cas, pilotes, la France, la Belgique, les États-Unis, le Canada et l'Afrique du Sud. Alors, dites-nous, comment se passe cette campagne? On a parlé de militants, de certains candidats, de certains candidats à la présidentielle qui essaient en tout cas de convaincre les Congolais par rapport au programme de leurs candidats. Est-ce qu'il y a un commentaire là-dessus?
Oui, oui, il y a vraiment des choix qui se sont dessinés clairement. Il y a des candidats qui ont quand même le vent en poupe. Il y a des candidats qui font pas au travers de leur militance, je peux le dire, du travail de proximité. Et il y en a qui utilisent beaucoup des réseaux, tels que les églises, tels que les endroits fréquentés par les Congolais. Vous savez, par exemple, en Belgique, et à Bruxelles particulièrement, il y a un espace Matongé. Il y a beaucoup de Congolais. Donc, il y en a qui se mobilisent, qui font la campagne ici, comme ici, avec des t-shirts, avec des lance-voix qui parlent. Dans les endroits tels qu'un marché de l'abattoir, qui est beaucoup fréquenté par les Congolais, il y en a qui se mobilisent. Donc, il y a quelques militants de certains candidats qui se mobilisent pour pouvoir aider, faire en sorte que leurs candidats obtiennent le maximum de voix dans le pays où ils se trouvent, notamment en Belgique. Ça, on le voit. Vraiment, il y a cette volonté. Mais au-delà de ce travail de proximité, il y en a qui le font via les réseaux sociaux. Il y a une forte mobilisation. Et on voit qu'il y a certains candidats qui se détachent du lot.
Oui.
Et qui ont une forte adhésion au niveau de la diaspora. Ça on le sent, on le voit.
Alors, avant de passer la parole aux auditeurs, parce qu'il y aura des auditeurs de Kinshasa, mais aussi, j'imagine, ça va marcher avec nos lignes WhatsApp de la Belgique, du Canada, de la France, qui pourraient également intervenir au cours de cette émission. Alors, pour parler de programme, on dit que c'est, en tout cas ici, pour le Congolais, qui vivent ici en RDC, c'est facile, on peut facilement les manipuler par rapport au programme, parce que généralement, c'est sur le même programme que les différents candidats reprennent, l'accès à l'emploi, l'accès à l'éducation, à la santé. Et bien souvent, lorsqu'ils arrivent aux affaires, c'est pas le cas. Et au niveau de la diaspora, on imagine qu'ils ont un certain degré de conscience et surtout, ils vivent dans des pays des vieilles démocraties. Alors, c'est quoi la différence par rapport à la perception des programmes?
Alors vous savez, les Congolais qui vivent dans la diaspora, notamment dans les pays occidentaux, ils ont des cadres bien tracés. Ils vivent les campagnes dans ces pays-là. Ils savent comment ça se passe. Donc quand on veut faire, on parle d'un candidat, on attend un programme. Hein, les Congolais qui sont à l'extérieur demandent le programme, voir qu'est-ce que le candidat est en train de proposer par rapport au pays. Et je peux vous dire que les gens ne sont pas naïfs. Hein. Il faut qu'il y a des candidats qui sont des démagogues, des populistes, parce qu'il n'y a pas de substance. Il faut qu'il y a des candidats qui essaient, tant mieux que mal, comme tout politicien, de donner des programmes et des promesses. On sait que d'autres ne tiendront pas. Mais ils ont une petite idée. Mais c'est que les Congolais de l'étranger, comme je l'ai dit, ils sont exigeants sur les chiffres aussi, les modalités pour atteindre les programmes. Et donc c'est un peu ça. Le choix est porté. C'est vrai qu'il y a une part aussi de ceux qui sont liés à certaines personnes en fonction de certains intérêts individuels. Mais en gros, les gens regardent les programmes. Que présentent les candidats? Quels sont les programmes? Et très peu des candidats ont des vrais programmes.
Voilà, on revient à vous, Maître Dieudonné Tshibabwa. On va ouvrir le standard. Il y a déjà des auditeurs en ligne. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la fréquence de la paix. C'est votre magazine des champs citoyens. Parole aux auditeurs. Nous parlons aujourd'hui de la diaspora congolaise. Si vous voulez, des Congolais vivant à l'étranger qui, pour la première fois, vont pouvoir voter pour le scrutin de 2023, notamment pour ce qui est de l'élection présidentielle. Si vous êtes intéressé, vous voulez intervenir, composez les 081-890-6330 ou les 081-890-4969.
Parole aux auditeurs.
Bon, on va déjà aller en Afrique du Sud, prendre le tout premier auditeur qui est en ligne. Il s'agit du professeur Trésor. Professeur Trésor, vous êtes en ligne depuis l'Afrique du Sud? Professeur Trésor Makounia, vous êtes en ligne depuis l'Afrique du Sud?
Bonjour Marcel, bonjour à tous. Merci pour pour la parole. J'aimerais en fait d'abord commencer par réitérer l'importance du vote du Congolais de l'étranger. La première importance, à mon avis, c'est cette confirmation même de l'appartenance des Congolais vivant à l'étranger à la nation ou au démos congolais. Et ça c'est un vote qui resserre en fait les liens entre ceux-là qui sont à l'étranger et ceux-là qui sont restés au pays. Le deuxième élément, à mon avis, c'est la confirmation même de l'égalité entre citoyens. Lorsque vous êtes Congolais, vous avez tous droit de participer à la bonne marche d'affaires en République démocratique du Congo, que vous soyez sur place, donc sur les territoires nationaux ou à l'étranger. Donc le législateur essaie un peu d'harmoniser les textes afin de favoriser cela. Le troisième élément, et ce qui est important pour moi, ça confirme un peu une certaine participation économique de la diaspora congolaise. Certaines statistiques de 2011 démontraient justement que les Congolais vivant à l'étranger contribuent près de la moitié du PIB de la RDC, pratiquement 9 milliards de dollars à l'économie nationale. Alors, comment un individu qui contribue des sommes faramineuses à notre économie ne serait pas à participer? Ça, c'est un élément très important. Alors, les problèmes de cette participation sont très clairs. Et le premier pour moi, c'est que c'est une participation limitée de la diaspora congolaise. Et cette participation limitée est non seulement en droit, mais également en fait. Au niveau, sur le plan juridique, la participation est limitée d'abord parce que c'est seulement une participation aux élections présidentielles. Ça veut dire les élections législatives nationales ou provinciales et les élections locales, la diaspora ne participe pas. Alors que dans d'autres pays africains, notamment le Sénégal, la diaspora participe aux élections législatives nationales. Il y a même des sièges des Sénégalais vivant à l'étranger.
Mais dites-nous, professeur, c'est vrai, les impressions pour des Congolais vivant à l'étranger sont très bonnes par rapport à, en tout cas, à cette première expérience avec la CENI pour donner aux Congolais vivant à l'étranger l'occasion de voter, surtout notamment pour ce qui est de l'élection présidentielle. Mais dites-nous vos impressions par rapport notamment pour ce qui est de la campagne, comment ça se déroule, et notamment pour ce qui est de programmes présentés par les différents candidats.
Alors, le premier élément sur le plan de la campagne électorale, par exemple à Pretoria, où je vis, on ne voit pas cet engouement. Je me promenais d'ailleurs dans un quartier populaire ici à Pretoria, à Sunnyside, où j'ai vu seulement une petite affiche du président Félix Tshisekedi. Donc, il n'y a pas d'autres candidats qui font de campagne publiquement. Il y a certainement des partis politiques qui sont représentés en Afrique du Sud et puis qui envoient leurs émissaires porte à porte, mais il n'y a pas cette forte engouement. Mais il faut remettre ceci dans le contexte, en fait. Lorsque vous regardez les chiffres de la CENI, il n'y a eu que pratiquement 13 290 enrôlés dans les 5 pays. Et l'Afrique du Sud, c'est pratiquement le deuxième pays qui a eu plus d'enrôlés. Donc, il y a eu 3 200 une personne enrôlée en Afrique du Sud, et la France avait 5 000, la Belgique à 3 105. Donc, vous verrez que les candidats n'ont pas un grand intérêt à battre fortement campagne dans ces 5 pays parce qu'il n'y a que 13 000 électeurs. Et c'est là comparé par exemple à la province qui a moins d'électeurs, c'est le Bas-Zouélé qui a pratiquement 540 169. Ça, c'est le premier élément. Alors au niveau des programmes, c'est presque la même chose. L'avantage, c'est que les Congolais de la diaspora ou les Congolais vivant à l'étranger, comme vous le dites, sont hyper connectés en ligne et donc ils peuvent suivre les activités à partir de la République démocratique du Congo. Mais lorsqu'il n'y a pas ces campagnes, vous verrez très clairement qu'il n'y a pas cet effort de pouvoir comprendre quels sont le programme. Et le troisième élément, et ce qui est problématique à mon avis, c'est que la plupart des programmes n'essaient pas de résoudre certains problèmes auxquels les Congolais de l'étranger font face. Parce qu'il y a eu certainement ces débats, est-ce que les Congolais qui vivent à l'étranger devraient rentrer? Est-ce que les questions économiques, les questions sécuritaires vont leur permettre de rentrer? Alors, les candidats se sont beaucoup plus appesantis sur les questions qui se posent au niveau national. Alors, l'extraterritorialité de certains problèmes n'a pas été beaucoup plus attaquée, et cela crée une certaine réticence par rapport à certains électeurs
voilà.
qui se trouvent à l'étranger.
Merci beaucoup, professeur Trésor Makounia. Nous rappelons que vous interveniez depuis Pretoria, c'est ça, en Afrique du Sud, depuis Pretoria.
Justement.
Ouais. Voilà. Merci, professeur, en tout cas. Et bonne journée à vous. On va poursuivre avec un autre auditeur. Cette fois-ci, c'est Shérif qui nous appelle depuis France. On va écouter Shérif. Bonjour, Shérif. On vous écoute. Vous réagissez depuis la France.
Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, j'interviens depuis Paris. Je m'appelle Shérif. Et je voudrais parler aussi de la campagne telle que vécue ici dans la diaspora. Avec des collègues, oui, on en parle. On a certains collègues qui sont d'origine congolaise et d'autres qui viennent d'autres origines. Et on en parle. On en parle énormément. Parce que, comme vous le savez, l'Afrique compte beaucoup sur le développement de la RDC. Et de ces faits, même les collègues de l'Ouest, ils ont les yeux rivés en ce moment sur notre pays. Je pense que il y a certains avis qui disent que c'est Félix qui va gagner, d'autres qui disent que c'est pas Félix, que c'est plutôt Moïse. Et Katumbi, il a plus de chances de gagner, pour certains en tout cas. Mais moi je dirais ceci. Cette occasion aurait pu être une bonne occasion pour que la RDC et toute sa classe politique puissent gagner en crédibilité. Malheureusement, moi je compare cette campagne à notre jeu d'enfance. Quand on avait un ballon de foot, on était le roi. On venait sur terrain, on faisait jouer les autres. Et dès que on remarquait que l'adversaire était plus coriace, on reprenait le ballon. Et le match s'arrêtait pas là. C'est ce que je suis en train de vivre, moi, quand j'observe un peu ce qui se passe dans les chefs de nos autorités. Ils ont le ballon, et quand ils voient que Katumbi mène en score, pour dire en rassemblement, mobilisation, écoute, ils lui mettent les bâtons dans le roue, en changeant les lieux de meeting. Et hier, ce qu'il a vécu à Matadi, plutôt à Mwanda, je dénonce vraiment. Je les dénonce avec toute ma voix. Et je pense que ce n'est pas une bonne manière de faire la politique. Donc, je demanderai à nos autorités de laisser tous les candidats vaquer à leur campagne et que le meilleur gagne. C'est ça même la l'égalité, c'est ça la victoire.
Merci, Shérif, pour cette réaction depuis la France. Bonne journée à vous. On va cette fois-ci écouter Patience qui nous appelle depuis l'Afrique du Sud. Patience, Lukesso, vous êtes en Afrique du Sud?
Oui, bonjour, monsieur. Je suis bien aimé en Afrique du Sud. Merci de m'avoir associé à votre programme.
Alors, dites-nous, quelles sont d'abord vos impressions par rapport, en tout cas, à cette première expérience avec la CENI d'organiser les élections pour les Congolais vivant à l'étranger. Il y a notamment l'Afrique du Sud qui a été retenue parmi les 5 pays pilotes. Et comment se déroule la campagne?
Eh bien, je voudrais d'abord rafraîchir nos mémoires en me rappelant que j'ai été associé à une de vos émissions par un de vos collègues. Grâce à Mzati, pour ne pas le citer, qui est passé par ici lors de préparatifs de la CENI, lorsque l'Afrique du Sud a été désignée comme un des pays où les élections à l'étranger devraient avoir lieu. Nous nous sommes entretenus et à l'occasion, j'ai essayé d'être un peu plus optimiste en espérant que la situation déjà chaotique de l'organisation des élections au Congo allait s'améliorer avec le temps, mais bon, malheureusement, là, je suis obligé de parler de mon ras-le-bol et de mon découragement de voir que les choses, au lieu de s'améliorer, se sont plutôt empirées. À moins d'une semaine, si je ne me trompe pas, des élections, et telles que les choses se présentent, je me demande quel type d'élection on va vraiment avoir. Ce n'est pas pour autant que je suis pessimiste, mais c'est juste en question d'être réaliste, parce que sur le terrain ici, il n'y a rien comme préparatif. Vous savez, par exemple, les élections sont d'abord un point de où la technique et la logistique jouent un grand rôle, mais jusque-là, on n'a encore rien vu sur terrain, ni la préparation des témoins, par exemple, le matériel des kits, le matériel pour l'élection ne sont pas encore arrivés. On se demande à ce que ça va être. Voilà un peu pour ce qui est des préparatifs. Quant à la campagne, on a eu peut-être l'avantage d'être branché à travers les réseaux sociaux parce que la technologie et l'Internet sont un peu plus stables ici. Alors, on a eu le temps de suivre la campagne à partir de chez nous et on a vu comment est-ce que les différentes familles politiques se sont engagées, se sont plongées dans la campagne. Et les constats là-dessus sont aussi un peu amers hein, parce que on a été moins sportif et moins tolérant de façon générale, mais aussi moins démocratique parce que apparemment il y a un parti qui semble s'accaparer de tous les privilèges au détriment des autres partis politiques, par exemple. Alors là aussi, on se demande qu'est-ce que ça va devenir. Voilà.
Alors, mais s'il faut faire maintenant un commentaire par rapport au programme, comment ça se passe là-bas, comment on essaye, entre les militants de différents candidats essayent de défendre le programme de leur candidat à la présidentielle pour essayer de convaincre l'électorat de l'Afrique du Sud à voter pour l'autre candidat.
Ce que j'ai constaté ici, il y a quelques mouvements du parti politique UDPS, pour ne pas le citer. Il y a eu quelques partisans de l'UDPS qui ont essayé un peu de faire une marche à des campagnes ou des manifestations comme ça, mais qui se sont soldés en bagarre pratiquement parce que c'est précipité de l'argent et ça a donné très mauvaise impression. On a vite compris que on n'est pas toujours là pour l'intérêt du pays, mais c'est pour des intérêts mesquins. Et parfois, ce sont des miettes qu'on leur jette sous les pieds. Et ça nous fait dire que le Congolais est encore très loin de comprendre que l'enjeu historique et l'enjeu du futur de notre société dépend de certains sacrifices et des décisions responsables et éthiques que chacun d'entre nous doit prendre pour que l'on puisse d'abord mettre l'intérêt du pays à l'avant-plan. Et donc le fait que des actes immoraux comme ceux-là, où les gens se battent autour d'un billet de banque, ça nous fait voir que ce n'était vraiment pas une campagne en vue de convaincre la population du programme ou du bilan que son parti aurait déjà en main et puis du programme qu'il entrevoit à mettre sous pied dans les 5 ans si jamais le parti aurait encore la confiance du peuple. Donc ça nous fait beaucoup craindre que on est très loin de comprendre que notre avenir est encore en train d'être mis en jeu quoi.
Merci beaucoup patience Lukeso en tout cas d'avoir contribué également ce magazine qui aborde aujourd'hui cette question de cette première expérience de deux élections pour la diaspora et vous intervenez depuis l'Afrique du Sud. Merci beaucoup et bonne journée à vous. On va aller cette fois-ci à Vienne en Autriche. On va accorder la parole à Franck. Bonjour Franck.
Bonjour à vous notre cher ami Marcel. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi, à l'invité et aussi à celui qui vient de passer, patience, lequel se les reconnaît bien. Je les salue en passant.
Voilà. Franck, vous êtes en Autriche. L'Autriche n'a pas été, en tout cas, retenue parmi les 5 pays pilotes, mais vous vivez néanmoins en Europe, donc à Vienne, en Autriche. Mais dites-nous d'abord rapidement vos impressions par rapport à cette expérience pour le Congolais de la diaspora, de voter pour la première fois ses conseils d'élection présidentielle en RDC, mais aussi... vous avez suivi ce qu'a dit Patience Lukeso, vous avez également suivi ce qu'a dit le professeur Trésor Makanya. Comment réagissez-vous ou bien qu'est-ce que vous avez comme commentaire là-dessus?
Oui, merci beaucoup. Même si nous n'avons pas été associés à cette fête électorale, mais nous restons positifs, optimistes. Nous devons commencer par saluer de manière positive ces efforts déjà manifestes pour réhabiliter certains compatriotes congolais de l'étranger dans leur droit légitime, entre autres celui de participer au vote de leur pays respectif, surtout pour les Congolais qui n'ont jamais renoncé à leur nationalité ou pour des compatriotes qui sont restés Congolais, qui n'ont jamais changé de nationalité. Et en saluant ces efforts, il y a aussi lieu de nous demander si toutes les études de faisabilité ont été convenablement faites en amont afin de faire participer de manière générale tous les Congolais vivant à l'étranger. Si je reviens à cette objection, c'est parce que en 2016 déjà, il y avait un tel projet et moi je reconnais, j'étais encore au pays pour les enseignements. J'avais fait une suggestion à l'ancien président de la CENI, Monsieur Corneille Nangaa, qui était même l'invité des PA. En 2016, je dis, je lui disais que pour enrôler les Congolais de l'étranger, c'est pas aussi difficile que chez nous ici. C'est question que les pays, les ministères de l'Intérieur ou bien les ministères des Affaires étrangères s'adressent à nos ambassadeurs, à nos services des ambassades et chaque service devait s'adresser à la préfecture ou à la mairie pour qu'on leur donne les identités des Congolais qui n'ont jamais changé de nationalité, qui ont encore les passeports congolais et qui ont l'âge de voter. Ça irait plus vite et on pouvait se faire des idées réelles sur le vrai nombre de Congolais qui sont dans tel pays, qui sont dans tel autre pays. Parce que quand on fait des suggestions comme ça, parfois ils se rendent compte que comme chez nous, c'est difficile d'estimer et que ça doit être absolument difficile pour les autres. Parce que pour les cas de l'Europe ici, il suffit de poser la question, en moins de 15 minutes, on vous donnerait les statistiques pour ceux qui sont enregistrés. Donc là déjà, il y a un problème même pour l'enrôlement qui venait de se faire cette année. On se rend compte qu'on n'a pas atteint le nombre des enrôlés qu'on pouvait avoir. Parce que pour plus de 500 000, si on ne fait enregistrer que 13 000, je ne sais pas, ça représente à peu près combien.
Mais Franck, oui. Là, l'invité a évoqué cet aspect, on espère, on l'a dit, c'est une première expérience, et à partir de toutes ces observations, certainement la CENI pourra améliorer, en tout cas pour le prochain cycle électoral. Mais cette question, rapidement, parce qu'il y a d'autres auditeurs également de l'étranger qui aimeraient intervenir rapidement, de manière générale, est-ce que vous avez peut-être un commentaire par rapport à ce que on dit, j'ai parlé de Patience Lukeso également, du professeur Trésor Makounia, qui ont essayé de dire comment les choses se passent dans ces cinq pays pilotes. Et vous avez quelque chose à commenter là-dessus, comme ça on va évoluer.
Oui, par rapport à la campagne électorale, elle se passe, on les suit, mais c'est pas comme chez nous, parce que ici par exemple, quand un candidat arrive, il va d'abord s'adresser à ceux qui lui sont proches et même à son arrivée, on peut pas voir des engouements comme ça se fait chez nous parce que ici, il y a la réalité du travail. La plupart des gens travaillent et ils s'adressent, ce sont des campagnes qui se font de bouche à bouche dans des circuits un peu fermés de proximité. Puis, il y en a qui suivent un peu ce qui se passe, mais les vœux, l'attente commune que nous avons, c'est de voir les pays être gouvernés autrement sur base des principes juridiques faisant que chaque Congolais puisse se retrouver. Il faut que les droits s'appliquent et il faut qu'il y ait vraiment la justice distributive. Il ne faut pas que ça reste encore le même système où on va voir les mêmes...
Voilà, merci beaucoup Franck. Ça, c'est les vœux de tous les Congolais. C'est qu'en tout cas, souhaite à tous les Congolais la justice sociale, la bonne gouvernance. Merci Franck d'avoir appelé depuis Vienne. On va prendre Rigen qui nous appelle depuis la France et puis on va revenir à notre invité. Rigen Mondila, bonjour, vous nous appelez depuis la France.
Oui, je vous appelle depuis Paris. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
On vous écoute, vous avez la parole. Oui. Alors vous écoutez, vous avez la parole, vos impressions, notamment pour ce qui est certainement comme tous les autres Congolais, vous réjouissez de pouvoir voter pour la première fois, en tout cas pour les Congolais vivant à l'étranger. Mais dites-nous comment se passe la campagne à Paris de votre point de vue.
De mon point de vue, il y a une faible capacité de mobilisation de la part du gouvernement, parce que vous allez remarquer déjà à Kin, on a des chaînes nationales du genre RTNC, il y a APC, l'agence congolaise ou l'agence presse congolaise, quelque chose de comme ça, qui sert aussi au gouvernement congolais de bien informer à la population. Mais sauf que ici en France, je ne sais pas quels sont les canaux que notre gouvernement utilise pour atteindre un peu plus de Congolais là où ils sont par rapport à ce qui se passe au pays, ou soit par rapport à cette période électorale. Mais du coup, je dirais que les gens ne sont pas mobilisés, ils sont pas motivés, parce que le gouvernement n'arrive pas à bien informer, ou soit ne leur donne pas envie d'y aller voter. Déjà, les choix du 20, je ne sais pas, c'est calculé par rapport au jour du calendrier électoral, mais vous allez remarquer déjà ici, les gens, ça sera un mercredi, les gens vont aller au travail. Alors, je ne sais pas, sur les 13 000 enregistrés, combien de gens qui vont aller voter et laisser leur travail pour aller rien que voter. Je ne crois pas qu'il y aura vraiment assez de gens pour aller voter ces jours-là. Aussi, au niveau des déplacements, quelle est, je dirais, la politique de la CENI en fonction de nos départements? Comment est-ce que les gens vont faire pour y aller voter? C'est-à-dire, ici à Paris, c'est bien bon, mais on a des banlieues qui sont aussi si loin du Paris-Centre. Alors, les gouvernements, je ne sais pas, comment est-ce qu'ils pensent ou quels sont les mécanismes qu'ils mettent en place pour essayer un peu de sensibiliser les Congolais et de leur donner aussi envie
voilà. Merci. Voilà, merci à Rugen Mundila. Merci d'intervenir depuis Paris en France. Bonne journée à vous. Alors, on va revenir à notre invité avant d'accorder la parole aux auditeurs qui nous appellent de la RDC. Il y a Pascal Kankou qui est à Kananga, également Blaise Saïdi à Toubou qui appelle depuis à Kisangani. On revient à vous tout à l'heure. Le temps pour notre invité Maître Dieudonné Tshibwaboua de réagir par rapport en tout cas aux interventions de ces Congolais vivant à l'étranger. On a parlé de programmes, on a parlé de la mobilisation. Votre commentaire là-dessus.
Bon, vous voyez, Marcel, les Congolais aiment leur pays. C'est pour cela que vous avez des gens qui vous suivent de l'extérieur et qui veulent donner leur son de cloche. Mais nous avons aussi un déficit. Bon, moi, je suis à cheval. Je suis totalement ici, totalement à l'extérieur. Donc, je suis entre les deux, si je peux le dire. Le déficit, c'est au niveau de l'information. Une des sources principales des informations des Congolais et d'étrangers sont les réseaux sociaux. Mais vous savez qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, il y a beaucoup de désinformations. Des informations qui sont fabriquées, qui ne sont pas réelles. Je suis tout à l'heure un auditeur qui dit parler de ce qu'il voit. Je vous dis que sur le terrain, les choses ne sont pas pareilles. Il faut faire attention avec la désinformation et les fake news. On essaie les effets tels que les vues des campagnes électorales, les effets de victimisation, il y a pas mal de choses. Il faut faire attention, il ne faut pas tomber dans le piège, il faut être réaliste. Nous, vous savez, les Congolais veulent tous que les choses s'améliorent. Et je pense que nous avons lancé un appel il y a quelques temps pour que cette campagne qui a bien commencé, qu'elle puisse bien en atterrir, éviter l'exclusion, les paroles xénophobes et tout ce qui s'ensuit. Mais il faut faire attention, ça j'insiste, sur certains tireurs de ficelles qui sont peut-être derrière certaines initiatives pour faire échouer la campagne, les élections. Nous avons voulu qu'il y ait des élections. Permettez-moi de le dire, ça c'est un problème des Congolais. C'est mon point de vue. Est-ce qu'il était utile d'organiser les élections à cette période-ci? C'est ça, c'est mon point de vue. Nous avons un cas qu'en Ukraine, le pays est agressé. Est-ce que vous allez voir aujourd'hui Zelensky dire qu'il va organiser les élections? Le Congolais, des fois, on ne sait pas ce qu'on veut. Il y en a qui parlent des fois de leur pays, de la sécurité, de l'intégrité de leur territoire. Un pays occupé, vous avez une pression des gens. Oui, on doit faire les élections à telle date, s'il n'y a pas élection, c'est tout ou rien. Non, il y a un problème de patriotisme qui manque ce pays. Chacun veut, c'est la politique de dégage que je m'y installe. C'est ça, moi je suis désolé de constater que la plupart de prétendants, notamment à l'élection présidentielle, c'est juste cet égoïsme qui trône. Et, mais il n'y a pas cette volonté ou ce besoin du souci du peuple. Je n'ai vu personne aujourd'hui dire qu'est-ce qui a été fait, comment pouvons-nous nous souder pour aider le PLE de l'avant, même si nous avons des divergences de vues. C'est ça le problème. On pense que c'est que moi j'ai forcément raison. Mais regarde, qu'est-ce que l'autre a? Comment vous pouvez conjuguer vos efforts pour défendre l'intérêt de votre pays? Le problème du Congolais est là. C'est l'égoïsme à outrance. Et malheureusement, beaucoup de gens tombent dans les pièges des politiciens. Le problème du Congo sont les politiciens. Ça, j'insiste. Les politiciens n'aiment pas leur pays. Je vous ai dit que j'ai regardé la plupart des candidats. Je parle d'élection présidentielle. C'est de la démagogie simplement et purement. Il n'y a rien de concret. Aujourd'hui, il ne faut pas penser qu'on va réinventer la roue. On doit voir où nous sommes, d'où nous venons, où est-ce qu'on va aller. C'est les trois questions existentielles que j'ai posées ici. Pourquoi pas essayer de voir qu'est-ce qu'on peut consolider? Qu'est-ce qu'on peut avancer? Qu'est-ce que je peux proposer en plus? Chacun vient avec une idée novatrice qui on sait, qui on sait pour la plupart qu'elle ne va jamais aboutir. Mais il va donner des promesses qui ne vont pas tenir et les gens vont croire comme des aveugles. Non, il faut faire attention. Réfléchissons, soyons simplement des personnes qui ont du recul et qui aiment leur pays. Comme je l'ai dit, nous avons voulu faire les élections. Moi, personnellement, j'étais pas pour. Je pense qu'on n'était pas, c'était pas le moment propice. Ok, on y va. Mais c'est un jeu démocratique, c'est un jeu politique. Il faut accepter les règles du jeu. Et dans les règles du jeu, il y en a qui vont perdre, il y en a qui vont gagner. C'est normal, c'est ça, c'est le jeu politique. Mais vous allez voir des malins qui sont déjà en train de préparer à des contestations. Mais alors, pourquoi vous vous impliquez dans un jeu si vous êtes conscient que ce jeu ne va pas aboutir? Donc, sans des préjugés, pourquoi vous y êtes allé? Et donc, moi, je suis contre ce genre de personnes qui malheureusement tirent le peuple vers le bas.
Mais il y a des gens qui ont estimé qu'on est déjà dans ce processus depuis 2006. Autant continuer à avancer, quels que soient les alliés, quelles que soient les difficultés, continuer à avancer. Et comme ça, il y a déjà une certaine culture démocratique qui s'enracine et qui s'incruste dans nos mœurs.
Les gens ne sont pas dans la réflexion. Les gens sont figés. 2006, 2011, 2000. Non, pourquoi ça ne s'est pas? On a fait trois cycles. Qu'est-ce que nous avons tiré de ces trois cycles? Pourquoi ne pas faire des concertations? Dit, ok, réfléchissons. Comment améliorer? Qu'est-ce qu'on peut faire? Aujourd'hui, je vois, à peine on commence les élections, il y en a déjà qui se projettent dans 5 ans. Dans 5 ans, tel doit partir. Mais ce n'est pas ça. Nous avons commencé la démocratie ici depuis 1990. Regardez, depuis 90, on se joue. Qu'est-ce qui a été fait? Est-ce qu'il n'y a pas eu des avancées? Oui. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut consolider? Qu'est-ce qu'on peut, nettoyer? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Moi, personnellement, je pense que nous devons réfléchir à la démocratie à l'africaine.
Mais pour 90, là, on parle encore de c'est une démocratie, mais un
naissance.
Peu sous les
dictates. Mais écoutez, nous avons que 30 ans de démocratie, on veut nous imposer les choses que les autres ont depuis 200 ans. Et c'est ça que je trouve utopique, et les gens tombent dans le piège. On ne peut pas exiger aujourd'hui à un pays comme le nôtre avoir les mêmes standards que les gens comme la France ou les États-Unis. Moi, je vais vous donner des cas, je le donne encore aujourd'hui. Vous avez des pays du Moyen-Orient, vous avez des certains pays qui ont leur manière de fonctionner et qui se développent sans forcément calquer la démocratie à l'occidentale. Je suis un démocrate, oui, mais nous ne devons pas être comme des perroquets et répéter ce qui se fait ailleurs. Il faut nous adapter à nos réalités. Moi, je suis ici. Vous savez, aujourd'hui, j'ai vu l'évolution de choses depuis plus de 20 ans, parce que je reviens un peu régulièrement. J'ai vu ce qui était bon sous l'ancien président, ce qui n'a pas été. Je vois ce qui est bon avec l'actuel président, c'est qu'on doit améliorer. Je me projette dans le futur. Aujourd'hui, le problème, c'est que surtout dans la diaspora, les gens sont omnibulés et sont manipulés par ce qui se prend dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont pas des sources fiables à 100% d'informations. Venez sur le terrain, voyez les réalités. Je vais vous donner des cas.
Rapidement, il y a deux auditeurs qui
m'arrêtent. Je vous donne des cas rapides. Oui. Aujourd'hui, nous parlons de la gratuité de l'enseignement de base. Je vois des gens qui spéculent, qui parlent. Mais vous savez que c'est une disposition qui existe dans la Constitution depuis des siècles. Pourquoi ça n'a pas été appliqué? Aujourd'hui, il y a un commencement. Pourquoi ne pas réfléchir? Ok, on a commencé. Qu'est-ce qu'on doit améliorer? Qu'est-ce qui n'a pas été? Aujourd'hui, vous avez des gens qui vont commencer à lancer des piques. Oui, on a fait des choses à la va-et-vite, ça n'a pas marché. Mais ça a été fait pour le bien-être de qui? N'est-ce pas de la population? Si vous aimez la population, alors proposez qu'est-ce qu'on peut améliorer, parce qu'aujourd'hui, nous savons que l'enseignement et l'éducation est la base du développement d'une société. Alors aujourd'hui, quand quelqu'un lance ça, les gens au lieu de réfléchir, vous savez, on peut avoir des divergences d'opinion, mais quand il s'agit de l'intérêt de la nation, on se met ensemble pour mieux faire. Mais je peux amener mes inputs, comment je peux amener? Aujourd'hui, les gens sont dans, allez, permettez-moi de le dire, dans l'opposition, de l'opposition, on ne sait pas pourquoi on s'oppose, au point qu'on va s'opposer même à Dieu gratuitement. Soyons réfléchis. Moi, je suis pas un fanatique, vous savez, moi, je suis quelqu'un de réfléchi. Quand il y a des choses qui marchent, je le dis, quand il y a des choses qui marchent pas, je le dis. Nous devons tous nous tenir par la main parce que ce Congo appartient à tout le monde. Les hommes passeront, les institutions resteront et les jeunes générations futures viendront. Mais qu'est-ce que nous allons léguer à nos générations futures? C'est ça la grande
question. C'est la grande question. Voilà. On revient à vous, Maître Dieudonné Tshibombo. On va prendre deux autres auditeurs qui appellent en tout cas de la RDC. On va prendre deux autres auditeurs qui appellent de la RDC. Nous avons Pascal Kankou qui nous appelle depuis Kananga. Pascal Kankou, vous êtes en ligne depuis Kananga.
Bonjour au Capi, bonjour à l'invité du jour, bonjour également à tous les groupes de la diaspora qui nous suivent.
On vous écoute, allez-y.
Merci beaucoup pour la thématique. Je sais très bien que depuis plusieurs années qu'on a eu à organiser les élections chez nous en République démocratique du Congo, il n'a jamais eu des élections pour les Congolais vivant à l'étranger, à l'occurrence les Congolais de la diaspora. Donc, c'est avec un sentiment de joie que nous accueillons cette nouvelle. Et c'est pourquoi nous profitons de cette belle opportunité pour féliciter la CENI pour ce grand travail qu'elle a eu à faire. C'est un grand travail, vraiment un travail encourageant. Mais malgré cela, il y a certaines erreurs qui doivent être corrigées. La première erreur, c'est d'abord liée au nombre de pays ciblés pour l'organisation de ces élections. Nous sommes sans ignorer que la République démocratique du Congo a les citoyens partout à travers le monde. Les Congolais sont là. Mais je vois seulement un nombre limité de... Les électeurs qui pourront...
Alors, ça c'était la première erreur, on va y aller rapidement. Et la deuxième, vous aurez souhaité qu'il y ait beaucoup de pays en tout cas à retenir pour ces élections, mais la CENI n'arrête pas de dire, c'est une expérience pilote. Et la deuxième erreur, d'après vous, c'est laquelle?
Bon, la deuxième erreur, c'est par rapport à la mobilisation et la sensibilisation, parce que j'ai suivi un éditeur de la diaspora, je ne sais pas, qui a été venu à partir de la France, qui dit il n'y a pas la sensibilisation, il n'y a pas la mobilisation. Mais s'il n'y a pas mobilisation, comment est-ce que ces Congolais de la diaspora peuvent-ils arriver à faire un bon choix pour la participation ou bien pour l'élection du futur président de la République? C'est un grand problème.
Voilà, merci Pascal. Quand on a retenu, d'après vous, il faut prochainement voir comment avoir plus de pays pour aider des Congolais vivant à l'étranger de participer au vote, notamment pour ces élections présidentielles. Vous avez aussi regretté le fait qu'il n'y a pas une grande mobilisation dans ce pays pilote. Merci Pascal Kankou depuis Kananga. On va prendre le tout dernier auditeur, c'est Blaise Saïdi, à tout bout depuis Kisangani. Bonjour Blaise Saïdi.
Bonjour cher Marcel, bonjour à notre invité, bonjour aux auteurs de la Radio Capi, bonjour à mes prédécesseurs. Vraiment, c'est un sujet trop pertinent vu le temps qui est notre, les élections. Mais cher Marcel, la participation des diasporas congolaises à l'élection présidentielle du 20 décembre, c'est une victoire pour la RDC en général et la CENI en particulier, dirigée par M. Denis Kadima. Cher Marcel, c'est bien un pari gagné pour la diaspora congolaise, vu que les trois premiers cycles, ils n'ont jamais participé à l'élection présidentielle. Imaginez que le nombre des électeurs, 4 millions, donc 44 millions, et la diaspora congolaise en a 13 290. Il est moins vraiment. Donc je pense bien que mes prédécesseurs ont aussi souligné que non, il aurait fallu que à la fois prochaine que la CENI pense encore à passer dans d'autres pays, donc à organiser l'enrôlement dans d'autres pays.
Donc, voilà, merci, merci Blaise Seyd. Donc, je comprends que vous également, vous êtes d'avis qu'il faut en tout cas prochainement essayer d'avoir beaucoup plus de pays, en tout cas où vivent de Congolais, de manière à ce qu'il y ait beaucoup d'électeurs congolais vivant à l'étranger. Merci Blaise Seyd d'avoir réagi depuis Kisangani. Et avant de conclure avec notre invité, je m'en vais lire cette réaction de Willy Sai de la France depuis Paris. La participation de la diaspora congolaise pour la première fois aux élections présidentielles de décembre 2023 nous permet de participer au choix de notre futur président, comme nos frères et sœurs du pays, de faire entendre nos voix, surtout pour ce moment que notre pays est en train de traverser la guerre à l'Est et les enjeux très importants au sein du pays risquent de balkanisation. Bravo aux organisateurs de penser au peuple, aux Congolais vivant à l'étranger, espérons la transparence et la victoire à la personne qui va gagner les élections comme président. Vive la République du Congo, vive la RDC. Voilà, ça c'est Willy Sai qui nous écrit depuis Paris en France. On va conclure avec vous, Maître Dieudonné Tshibobwa, de manière générale, en tout cas, presque tous les avis convergent de faire en sorte que pour la première fois, la diaspora pourra, en tout cas les Congolais vivant à l'étranger, pourront voter pour l'élection présidentielle de 2023, notamment dans ces 5 pays pilotes. Mais alors, on insiste, on revient sur le fait qu'il n'y avait pas assez de... il y avait pas assez de mobilisation, et puis il y avait également cette question du programme. Mais le plus important, il faut que les Congolais aiment leur pays et puissent faire du choix qui pourront faire que le pays aille de l'avant.
Oui, moi je veux déjà vous dire deux choses. Première chose, il faut identifier les Congolais étrangers. Avant même d'aller parler aux élections, on parle de 10 millions, selon certaines statistiques. Et dans 10 millions, il y a pratiquement 6 millions qui ont acquis d'autres nationalités. Donc ça, c'est quelque chose à ne pas négliger. Aujourd'hui, on a trouvé des formules pour que ces Congolais qui sont impliqués dans le débat démocratique dans leur pays, que ces Congolais se sentent encore beaucoup plus impliqués par ce genre d'initiative. Vous savez, il y en a même des Congolais qui ont sollicité que la diaspora soit considérée comme la 7e province. Vous comprenez où qu'on veut aller, parce qu'on veut que cette diaspora soit réellement considérée. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un début. On doit améliorer. Moi, je peux donner que comme conseil aux autorités de faire vite pour que, je crois qu'il y a une intervention qui s'est passée tout à l'heure, qui est un registre d'attente des Congolais qui sont au niveau des ambassades, même ceux qui ont acquis d'autres nationalités, et qu'on pourra mettre en registre d'attente. Et si la loi passe, comme les Congolais beaucoup d'attentes qui sont à l'étranger, la loi passe qui leur permettra de récupérer leur nationalité, ils pourront être considérés comme Congolais. Et ainsi, nous pourrons aller non seulement... les Congolais vont aller participer aux élections présidentielles, mais législatives aussi et autres. Donc ça, c'est important. Les Congolais de l'étranger, c'est une force non négligeable pour ce pays. Et nous voulons dire aussi que ces Congolais aiment leur pays. C'est pour cela qu'ils s'impliquent. Beaucoup peuvent passer leur vie à l'étranger sans problème, parce qu'ils ont les conforts qui conviennent. Mais s'ils viennent, ils participent comme des gens comme nous. Moi, je ne cherche pas l'entre les deux. J'ai l'activité ici, j'ai des gens que j'embauche ici, et tout comme là-bas à l'étranger, c'est parce que nous aimons notre pays. Ça, on ne doit pas l'oublier. Mais j'insiste, pour les politiciens, s'il vous plaît, chers politiciens à tous les niveaux, il faut aimer le pays. Je pense à tous les niveaux. Je ne vise pas que ceux qui sont là, qui veulent briguer la direction du pays. Je parle à tous. Pourquoi nous allons à la politique? Nous voulons faire la politique. Moi, j'ai l'habitude de parler avec les candidats. Je lui pose la question, pourquoi vous êtes candidat député? Qu'est-ce que vous poursuivez derrière? Qu'est-ce que vous voulez défendre? Vous allez voir que beaucoup, presque la moitié, je suis désolé, ils ne savent pas pourquoi vous êtes candidat député. Parce que le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, les gens ont besoin de survivre. Et pour survivre, ils pensent que la politique est le canal qui leur permet d'avoir des moyens financiers. C'est ce qui est faux. Et moi, je souhaiterais que nous puissions, le pays puissions se redessiner autrement, mettre en place ce qu'on appelle l'entrepreneuriat, qui permettra aux gens de pouvoir s'en sortir. Vous allez voir que très peu vont s'intéresser à la politique dans son sens d'être décideur, mais vont soutenir la politique par leurs moyens financiers. C'est ça que nous devons mettre en place. On doit inverser le rôle. Aujourd'hui, vous allez voir, tout le monde veut être candidat député. Ça n'a aucun sens. Nous voulons, aujourd'hui au Congo, faire un monde à part. Ça doit changer. Et nous pensons qu'avec des personnes averties, réfléchies, nous pouvons modifier la donne et permettre à ce que le pays se mette sur les bonnes voies en donnant de l'espoir à tout le monde et en faisant de la politique autrement. Une politique réfléchie, pas la politique politicienne parce qu'on veut nourrir sa famille. Une politique parce qu'on aime le pays, parce qu'on veut changer le pays. Parce que si vous regardez ce que nous sommes en train de vivre au Congo, si on ne fait pas attention, on risque de perdre le pays. Merci. Moi, j'aime dire à tous... Aimons le Congo, s'il vous plaît.
Merci beaucoup, Maître Dieudonné Tshibaba. Je rappelle que vous êtes avocat barreau de Bruxelles en Belgique, de Kananga en RDC, mais aussi président de la Fédération de la diaspora congolaise de Belgique. Merci d'avoir été des nôtres. On espère vous retrouver prochainement.
Merci.
Fin de ce numéro de Parole aux Auditeurs. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi. À très bientôt.